Rosny-Jeun, l'amour circulaire. Nous sommes de pauvres femmes insensées qui mettons au jeu de la vie comme si nous mettions à la roulette. Nul de nous ne sait où trouver le bonheur. On nous parle de raison, de sécurité, d'une sage ordonnance. Mais ce n'est pas pour jouir, c'est seulement pour éviter la peine. Au fond de nous, un monstre gronde avec des paroles de la chimère, cherchant des parfums nouveaux, des fleurs plus larges, des plaisirs inéprouvés. Tout ce qu'il y a d'actif et de positif en nous s'élance vers des joies indéfinissables que nos prudences étranglent. Autant ainsi que les oiseaux pris au filet. C'était Madame de Valois qui disait cela à l'une de ces après-midi où nous n'étions que des femmes. Nous buvions avidement ces petits discours, car nous savions toutes ressentir la vague douleur de n'être que ce que nous étions, de ne posséder que ce que nous possédions, et de ne pas voir surgir de l'inconnu le paradis des délices dont parlent les livres et vers lesquels les plus honnêtes femmes soupirent à 16 heures. N'en demeurions pas moins surprises d'entendre Madame de Valois, ne reniait-elle pas un passé de sacrifices toutes les années où, souriante, elle avait accepté de vivre auprès d'un mari sombre et fantasque qui l'emprisonnait à la campagne les 3/4 de l'année et avait dû la rendre très malheureuse. Sans doute, elle lut ce que nous pensions dans nos yeux, car elle sourit en reprenant. « Oui, ce que je viens de vous dire là, peut s'appliquer à ma propre vie. Elle aurait dû être parfaitement misérable dans les conditions ordinaires. Mais elle fut sauvée par une circonstance que personne n'a connue, ce qui explique pourquoi le bonheur que j'ai eu pendant 20 ans sur mon visage se trouvait très réellement au fond de mon cœur. Le jour où on m'annonça le fiancé qu'on avait choisi pour moi, je tombais évanoui. Valois me faisait peur. Valois me donnait le frisson. Et j'aimais mon cousin Roger, celui qui a tant fait souffrir sa femme par la suite. Seulement, voilà, j'appartenais à une famille où la soumission à la volonté paternelle était de tradition. Valois avait d'ailleurs de furieux avantages. Bien apparenté, fortune considérable, vigueur et santé. Et tout de même, j'allais à l'hôtel comme Iphigénie au sacrifice. Valois n'avait pas su gagner mon cœur. Il essayait en vain de donner de la grâce à son sourire, en vain de prononcer une parole aimable. Ses traits demeuraient immobiles, maussades, et il retombait toujours à un mutisme qui me terrorisait. Celles de vous qui l'ont vu savent que je n'exagère pas. C'était un monstre. Mon frère Paul détestait, disant couramment que j'épousais un funèbre imbécile. Mon père seul l'appréciait parce qu'il savait jouer passablement au whist. Le lugubre mariage, nous partîmes pour un château à lui, aux confins de la Sologne, dans un paysage désolé, Je ne puis goûter à ce moment la beauté fiévreuse. Mon mari n'avait pas prononcé une parole pendant le trajet. Il m'introduisit dans sa demeure comme aurait pu le faire un guichetier. Pourtant, soit survivance d'une organisation ancestrale, soit goût secret et presque inconscient de mon mari pour l'ordre et le confort, je fus surprise de trouver là des services bien stylés et des serviteurs nombreux, actifs. Le vieux domestique qui nous ouvrit la porte sut nous tourner un compliment aimable. C'était une façon de majordome au service de Valois depuis son enfance, et qui aimait, oui, qui aimait comme un père cette brute d'Édouard. J'ai su plus tard qu'il possédait tous les secrets de la famille, et un de ces secrets devait être terrible, car après la mort du marquis de Valois, la veuve demeura enfermée avec son fils dans ce château de Sologne, sans que personne ne soupçonnât les raisons de cet isolement farouche. Édouard ne fut jamais envoyé au collège. Un bonhomme de prêtre lui enseigna assez de latin, de français, d'histoire pour lui permettre de passer son baccalauréat. Et même après cette épreuve, il resta en Sologne, ayant été, grâce à la protection du général de X, son grand-oncle, dispensé du service militaire. Ainsi, petit à petit, il avait gagné ses 30 ans. Ensuite, Madame de Valois étant morte, il était venu à Paris et le majordome dont j'ai parlé l'y avait accompagné ainsi que son valet de chambre. Entre autres singularités de cette existence mystérieuse, mon père m'avait raconté, pour me rassurer sur la conduite d'Édouard, que jamais ces deux hommes ne manquaient d'aller le chercher, lui leur maître, à son cercle. Et celui-là, fut-il engagé dans un jeu d'enfer, se levait à l'arrivée de ses serviteurs, proférait trois mots d'excuse et se retirait. Interrogé là-dessus, il avait répondu qu'il remplissait la promesse faite à sa mère d'être toujours rentré à minuit. Ces détails me revenaient, tandis que le majordome, muni d'un flambeau, nous précédait vers notre appartement. Je fus ému de la beauté de ces meubles, des tentures, des grandes pièces dont les plafonds offraient des solives apparentes, et dont les parquets cirés aux lames noircies par le temps reflétaient délicieusement la lumière d'une salle à manger à recoins, comme en font les Anglais, et de chambres à coucher où se retrouvait tout ce que l'on peut imaginer de plus exquis. Oh, je lui serais ravi si la présence de mon mari ne m'avait fait glacer. Comme je lui dois cette justice, qu'après un repas mangé du bout des dents, il me laissa seul dans ma chambre et se retira le plus discrètement du monde. en me souhaitant une bonne nuit. Je me trouvais dans cet état où nous sommes après de longues tristesses et fatigués de pleurer, avec un sentiment vague de regret à l'idée que le pittoresque de ce voyage, cette arrivée dans un beau château, ces chandelles, ces chambres dont la vue c'était douce, tiède et voluptueuse, aurait pu servir d'excitant et de décor à toute autre chose que de la mélancolie, une sorte d'abandon alanguissait mes membres. Je demeurais longtemps rêveuse, en toilette de nuit, toute blanche, me regardant la glace avec désolation, n'ayant pas la moindre envie de sommeil. Ah, qu'il eût suffi de peu pour me rendre valoir agréable. Qu'est-ce que cela voulait dire? La porte, en s'ouvrant, ne me laissa pas le temps de la réflexion. Je vis entrer mon mari. Il s'avança vers moi, souple, souriant, gai. Un rêve le transfigurait, beau, tendre, spirituel, disant des choses délicates, un peu décousue, peut-être, mais toute charmante, et avec une volonté de plaire qui forçait tout mon cœur. Oh, ce n'était plus la brute taciturne avec laquelle j'avais voyagé. N'allez pas croire que je ne compris pas dès le début ce qui se passait. Il y avait de l'égarement sur ses traits et une absence dans ce regard contrarié, rien qui contrariait l'amour, car le fou tendait de sa vie consciente à l'autre ce fil d'une passion bien réelle pour moi, passion qu'il pouvait exprimer durant ses crises, et qu'il gardait douloureusement en lui, dans son état normal, si bien que j'ai jamais pu savoir s'il se rendait compte d'avoir été pour moi un enchanteur qui me liait à sa fantaisie, un poète qui me donnait ce mouvement éternel dont parle la chimère. Et maintenant que je commence à vieillir, quand je regarde autour de moi, je me demande ce qu'aurait été ma vie avec un de ces bons gentilshommes fervents de la première heure, mais qui se calment si vite, avec un fut époux sage, pondéré, comme je vois tant autour de moi. Je ne regrette pas le sentiment de pitié qui me porta tout d'abord à faire le même geste protecteur qu'avaient fait la mère et les domestiques fidèles, à cacher à tous les yeux la folie circulaire et nocturne du malheureux Valois, dont j'ai seul connu les qualités admirables, la touchante sensibilité et la brillante imagination.